Radio Prague, les informations. Bonjour, affaire Parkanova, la commission des humanités demande des informations supplémentaires. Le ministre belge des Affaires étrangères sera reçu à Prague ce jeudi, et puis enfin, selon un sondage, plus de 60% des Tchèques restent favorables à l'énergie nucléaire. La commission des mandats et des immunités de la Chambre des députés a demandé des informations complémentaires concernant l'affaire mettant en cause la vice-présidente de la Chambre des députés et ancienne ministre de la Défense, Vlasta Parkanova. La semaine dernière, la police avait demandé la levée de son immunité parlementaire. Vlasta Parkanova est soupçonnée d'abus de pouvoir lors de l'achat douteux de 4 avions militaires Caça en 2009, lorsqu'elle était ministre de la Défense sous le gouvernement de Mirek Topolánek. Cet achat avait éveillé dès le début des soupçons et des critiques en raison du prix très élevé de la commande. La commission des mandats et des immunités a de nouveau convoqué Vlasta Parkanova pour mercredi prochain. Le ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre Karel Schwarzenberg accueillera son homologue belge Didier Reynders au palais de Tchernine à Prague ce jeudi. Les relations bilatérales entre la République tchèque et la Belgique, les possibilités de collaboration dans les domaines de la science, de la recherche et de l'énergie nucléaire, le fonctionnement du groupe de Visegrad, des pays du Benelux, les relations avec la Russie, l'Ukraine, les états du partenariat oriental et du Proche-Orient figurent au programme de leur rencontre ainsi que la préparation du prochain Conseil européen. La République tchèque figurait en 2011 à la 18e place au classement du PIB par habitant des pays membres de l'Union européenne. Selon les estimations d'Eurostat, le PIB tchèque par habitant représente 80% de la moyenne des 27 en parité du pouvoir d'achat, une méthode servant à établir une comparaison du pouvoir d'achat entre pays. La République tchèque a ainsi gagné une place par rapport à 2010 et ce, aux dépens du Portugal. D'importantes différences demeurent entre les différents États membres, tandis que le PIB par habitant en Bulgarie, dernière du classement, n'atteint que 45% de la moyenne européenne. Au Luxembourg, premier, il atteint 274%, suivi des Pays-Bas avec 131%. Chiffre toujours, plus de 60% des Tchèques sont favorables à la production et au développement de l'énergie nucléaire dans leur pays. Tel est le principal enseignement qui ressort du récent sondage réalisé par l'agence STEM. Un an après l'accident de Fukushima, ce chiffre reste toutefois encore relativement éloigné de celui de 2009, quand plus de 70% des personnes interrogées se prononçaient en faveur du nucléaire. Par ailleurs, moins de 50% des Tchèques, soit un chiffre en baisse, pensent que la production d'électricité des centrales nucléaires pourrait être couverte par d'autres sources pour justifier leur position en faveur du nucléaire. Un grand nombre de personnes, c'est-à-dire plus de 75%, affirment redouter qu'une dépendance énergétique puisse représenter un risque pour la sécurité du pays. 103 000 lycéens ont passé le baccalauréat ou maturita en Tchèque cette année pour la deuxième édition de cette épreuve désormais nationale. Un peu plus de 21% des bacheliers ont échoué à l'examen contre un peu moins de 20% l'an passé. Les plus mauvais résultats ont été enregistrés dans l'épreuve de mathématiques. Près de 10 000 élèves ont décidé de faire appel de ces résultats, beaucoup plus qu'en 2011. Comme l'année dernière, le baccalauréat national fait cette année l'objet de sévères critiques de la part du corps enseignant comme des élèves. Les jardins sud, Ižní zahrady du château de Prague, ont été rouverts au public ce mercredi après 2 ans et demi de travaux de rénovation. Ces jardins offrent une des plus belles vues de la capitale. Les travaux, dont le montant s'est élevé à 2 750 000 euros, ont rendu au jardin leur aspect d'origine, fruit du travail de l'architecte slovène Jozef Plečnik dans les années 1920, sur commande du président tchécoslovaque de l'époque, Tomáš Garrigue Masaryk. Les canalisations ont notamment été rénovées et le bitume a été enlevé des voies de passage. Le parc possède également de nouvelles pelouses et un nouveau système d'arrosage. Les jardins sont ouverts tous les jours de 10h à 20h, tout comme les 5 autres jardins du château de Prague. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable, plus nuageux dans la partie nord-ouest et plus ensoleillé dans la partie sud-est qui règne ce jeudi, jour de la fête des Aloïs. Quelques averses sont également attendues qui seront plus abondantes dans le nord du pays. Les températures varient entre 24 et 31 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine d'information. Au programme, la semaine de la liberté qui se déroule ces jours-ci à Prague avec notamment le groupe punk rock russe Pussy Riot à l'honneur. Et puis le festival international du film de Carlo Vivari approche à grands pas, tour d'horizon dans cette émission des grandes lignes du programme. Histoire, enfin, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur la fondation de la Tchécoslovaquie en 1918 et sur ses frontières. Bonne écoute de ce programme. Un mur de 30 mètres de long a été dressé en début de semaine dans la partie basse de la place Venceslas, en plein centre de Prague, un mur blanc sur lequel les passants, à commencer par le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg, ont pu inscrire des messages de soutien au collectif féministe russe punk Pussy Riot, dont trois membres sont actuellement incarcérés suite à une performance non autorisée dans la cathédrale Saint-Sauveur de Moscou. La manifestation pragoise ainsi qu'un happening auquel ont participé deux membres présumés de Pussy Riot ont été organisés par l'association Opona dans le cadre de la Semaine de la Liberté, opération qui se déroule jusqu'à dimanche prochain à plusieurs endroits de la capitale tchèque. Magdalena Rozinková. Depuis l'automne dernier, le collectif Pussy Riot, formé pour promouvoir les droits de femmes et la liberté d'expression en Russie, multiplie des performances qui déplaisent fort aux autorités de Moscou. Le 21 février dernier, cinq membres du groupe en masque ont pénétré dans la cathédrale Saint-Sauveur pour y chanter une prière punk demandant à la Vierge Marie de chasser Poutine. Une manière dont ces jeunes mères de famille, qui n'apparaissent en public qu'en cagoule, robe et collants colorés, ont voulu dénoncer les liens étroits entre le président Vladimir Poutine et l'église orthodoxe. Un geste qui n'est pas resté sans réponse. Quelques jours plus tard, trois activistes des Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekina et Ekaterina Salutsevich, ont été placés en détention provisoire pour vandalisme commis en groupe organisé, dans l'attente de leur jugement, qui a été repoussé au 24 juin prochain. En République tchèque, comme dans d'autres pays, de nombreuses voix revendiquent la libération des trois femmes. Lundi matin, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a été le premier à inscrire sur le mur son petit mot encourageant. « Je vous admire beaucoup. Soyez fermes, la Russie regagnera sa dignité et sa liberté. Nous pensons tous à vous. » Mardi après-midi, presque tout le mur était déjà recouvert de dessins et de messages en plusieurs langues étrangères. « All you need is love »,« Poutine, davai da svidania », en français « Au revoir Poutine », peut-on y lire, de même que les mots de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Carolina va bientôt avoir 17 ans. Même si elle ne s'intéresse pas particulièrement à la situation en Russie, l'emprisonnement de trois femmes un peu plus âgées qu'elle ne la laisse pas indifférente.
Napisala sam, stay strong, have freedom, I pray for you.
J'ai inscrit sur le mur « Stay strong, have freedom, I pray for you », ce qui signifie « Soyez forte, ne vous laissez pas priver de votre liberté, je prie pour vous ». Je ne savais rien sur ce groupe, ce n'est qu'hier en passant à côté de ce mur que j'ai appris qui étaient ces femmes et ce qu'elles font. Aujourd'hui, je suis revenue pour leur adresser un message.
Martin Kotas représente l'association Opona qui organise la Semaine de la Liberté. Il explique.
En mettant en place cette installation, nous avons pensé à un autre mur de Prague, au mur John Lennon, qui se trouve en face de l'ambassade de France. Dans les années 1980, lorsqu'on y inscrivait des messages dénonçant le régime totalitaire, il est devenu un symbole de liberté. Au pied de ce mur étaient également organisés des concerts non autorisés. La Russie n'est pas un pays voisin, mais il nous est quand même proche, de par notre histoire commune. En organisant cet événement de soutien à Pussy Riot, nous voulons juste faire savoir qu'emprisonner des musiciens n'est pas normal.
Tout au long de cette semaine, l'association Opona organise dans une quinzaine de cafés pragois des débats autour de la liberté d'expression. La deuxième édition de la Semaine de la Liberté s'achèvera ce week-end par le festival de musique United Islands qui se déroulera sur les îles de la Vltava. En l'occurrence, une partie du mur dédiée au groupe Pussy Riot sera exposée sur l'une d'entre elles, l'île des Chasseurs.
Enfin, les photos du mur seront reproduites sur des cartes postales que les Pragois pourront envoyer au Kremlin pour s'assurer que le message est bien passé.
À moins de deux semaines de l'ouverture de la 47e édition du Festival international du film de Carlo Vivari, l'essentiel du programme et des stars invitées est connu. Pour en évoquer les grandes lignes, Karel Hoch, directeur artistique du festival qui a succédé à Eva Zaoralova à ce poste, nous présente tout d'abord les actrices présentes cette année.
Ce sera l'actrice américaine Susan Sarandon qui va venir à Carlo Vivari vers la fin du festival. Elle va présenter son nouveau film qui s'appelle Jeff Who Lives at Home, Jeff qui habite à la maison, et elle va recevoir le prix de la carrière.
Autre grande actrice qui est invitée?
Oui, nous avons déjà annoncé que ce sera Helen Mirren qui va arriver au début du festival pour obtenir le même prix, et elle va introduire avec István Szabó, le réalisateur très célèbre hongrois, son nouveau film The Door, où elle joue.
Quel est le film qui va inaugurer le festival? Quel est le film qui va le conclure?
On va inaugurer le festival avec une première internationale d'un film britannique qui s'appelle Good Vibrations. Good Vibrations, c'est le nom d'un magasin de disques. On est dans les années 60-70 à Belfast, Irlande du Nord. Et ce film est un film, une biographie d'un mec très célèbre et très incroyable parce qu'il était quelqu'un qui a commencé la scène de punk à Belfast. Donc c'est un film très agréable, même très intelligent, donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui touchent même la problématique de problème avec les protestants et catholiques. Et ça. Et on va fermer le festival samedi le 7 juillet avec un nouveau film de Woody Allen qui s'appelle To Roam With Love, une comédie avec des acteurs fantastiques comme Alec Baldwin, Penelope Cruz, Roberto Benigni, etc. Donc.
Comment se fait-il que cette année il n'y a pas de film français en compétition, dans la compétition principale?
Bon, simplement on n'a pas trouvé un film qui ont considéré convenable pour le concours de cette année. Il y a beaucoup de choix nouveaux, il y a même un peu plus les films un peu plus radicaux, les premiers films, donc on a un goût spécial et ça se passe pas que tous les ans on trouve un film français convenable, mais on a beaucoup de autres choses françaises dans le programme. Je voudrais même répéter qu'on va faire un hommage à Jean-Pierre Melville, un réalisateur culte français, en montrant ses 9 films, plus un documentaire, et il y aura des invités. Donc tous les films vont être présentés des copies 35 mm, et on est vraiment nous sommes très contents d'avoir l'aide incroyable de l'Institut français, de Prague, parce que sans eux, ça serait pas possible.
Et qu'en est-il des films tchèques? Est-ce qu'on retrouve des films tchèques justement dans la compétition principale, ou en tout cas dans d'autres sections?
En compétition, l'an dernier, on n'avait pas un film tchèque parce qu'on n'a pas trouvé un film tchèque convenable en 2011. Mais cette année, on a un film très différent de ce qu'on on est habitué de voir au cinéma tchèque. Ça s'appelle Polski Film. C'est un nouveau film de Marek Kneibel, qui est déjà assez connu. Il a fait plusieurs films avant. C'est un film qui a créé un nouveau genre que le réalisateur l'appelle reality film. Et c'est un film où les acteurs célèbres tchèques, ou très connus tchèques, ils jouent eux-mêmes dans une histoire de fiction.
Pour terminer, vous rendez également hommage à Josef Sommer, un grand acteur tchèque.
Nous sommes vraiment très très contents que Monsieur Sommer va arriver vers la fin du festival pour présenter son film très connu de 1968, Jert, la plaisanterie qui est basée sur le livre très, très connu de Milan Kundera. Et Monsieur Sommer va recevoir un prix de la carrière pour la contribution du cinéma tchèque parce qu'il est un des plus grands acteurs tchèques.
On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. 20 ans bientôt nous séparent de la disparition de la Tchécoslovaquie. Les raisons de la séparation sont restées incomprises de la plupart des citoyens tchèques et slovaques pour qui la Tchécoslovaquie était le principal legs politique de Masaryk, Beneš et Štefánik. Créée sur les ruines de l'Empire des Habsbourg, la Première République tchécoslovaque est l'un des États qui fait sa première apparition sur la carte de l'Europe wilsonienne, une Europe fondée sur le principe du droit des peuples à disposer de leur destin. C'est sur la création du peuple tchécoslovaque et du territoire tchécoslovaque tel qu'ils apparaissent au sortir de la Première Guerre mondiale que Paul Bauer vous propose de revenir aujourd'hui.
Chapitre de l'histoire.
Vážení občané České a Slovenské federativní republiky, obracím se na vás v posledních minutách trvání našeho společného státu, zejména na ty z vás, kterým není cizí...
C'est avec une adaptation quelque peu surannée de poème, la célèbre composition de Zdeněk Fibi, que Jan Stráský, le dernier chef du gouvernement de la Fédération tchèque et slovaque, annonce à la télévision le soir du 31 décembre 1992 la disparition de l'un des États les plus jeunes d'Europe. Son existence a été en effet très courte, la Tchécoslovaquie n'aura pas vécu un siècle. La première République tchécoslovaque est née sur les décombres de l'Empire austro-hongrois. L'indépendance est proclamée le 28 octobre 1918 et le pays a Prague pour capitale. Son territoire s'étend des monts métallifères à l'ouest, à la Ruthénie subcarpathique à l'est. Il joint ainsi l'Allemagne de Weimar à l'Ukraine. Une bande longue de plus de 1000 km qui a abrité le seul régime démocratique d'Europe centrale durant l'entre-deux-guerres. Mais revenons sur le contexte de l'époque. La chute de l'Empire des Habsbourg et la défaite allemande en 1918 annoncent la fin des empires en Europe centrale et la naissance des petits États-nations issus des nationalismes qui ont fait entendre leurs intérêts au cours du XIXe siècle. À la suite de la Première Guerre mondiale, Tchèques et Slovaques héritent d'un État commun, tandis que les Polonais retrouvent après plus d'un siècle d'inexistence un territoire national. Les Serbes, les Croates et les Slovènes sont réunis dans le royaume de Yougoslavie, tandis que les Autrichiens et les Hongrois héritent respectivement d'un État réduit tant territorialement que dans sa dimension démographique. Mais pour exister au sein de cette Europe remaniée, l'État tchécoslovaque a besoin d'un principe nouveau. Le tchécoslovaquisme, un concept national inédit en 1918, mais qui est issu des liens étroits tissés au cours du XIXe siècle entre les mouvements tchèques et slovaques d'émancipation nationale. Jiří Hnilica est historien à la faculté de pédagogie de l'Université Charles. On l'écoute sur ce point.
Le concept du tchécoslovaquisme s'enracine dans le XIXe siècle, dans tous ces questionnements sur qu'est-ce qui c'est des Slaves, qu'est-ce que c'est la famille slave, qu'est-ce que c'est les Slaves contre les Allemands. On le retrouve déjà chez Kolar, Palatsky, Borowski et les autres. Et ce concept est réfléchi beaucoup plus, comme j'ai dit, du point de vue politique, pendant la Première Guerre mondiale, du groupe autour Masaryk, Beneš et Štefánik, dans l'idée de la construction d'un nouvel État, la Tchécoslovaquie, qui prendra finalement naissance en octobre 1918.
Un concept de politique nationale qui prend forme grâce à l'aide des États-Unis, qui soutiennent en plein conflit mondial l'idée d'un nouvel État unissant ensemble les Tchèques et les Slovaques.
Le rôle des États-Unis est très important pour plusieurs raisons, bien logiquement. D'abord, une fois les États-Unis rentrés en guerre, ce pays devient une des puissances qui va décider le relèvement du conflit, autant plus que Wilson est très ouvert à tout ce qui est le droit des nations à leur propre destin après la guerre, donc une idée qui va ouvrir cette possibilité de créer tout un groupe de nouveaux États en Europe centrale, mais aussi les États-Unis sont le pays où les minorités tchèques et slovaques se trouve en nombre très important, notamment pour les Slovaques. Et ça va être ces émigrés-là, de plusieurs vagues du 19e siècle, qui vont financer l'action de Masaryk, Stefanik et Benesch. Et logiquement, c'est sur le terrain des États-Unis aussi où va se jouer le destin sur l'avenir de la Tchécoslovaquie. Et nous avons l'accord de Cleveland, l'accord de Pittsburgh, où les Tchèques et les Slovaques se mettront autour d'une table pour négocier l'avenir de la Tchécoslovaquie.
Le concept national est étroitement lié à la situation du rapport entre les différentes nationalités qui composent le tissu social des pays tchèques et slovaques avant la disparition de l'Empire austro-hongrois. L'invention d'une nation tchécoslovaque sert aussi à renverser la prépondérance des Allemands et des Hongrois au sein du nouvel État.
Le tchécoslovaquisme sert pendant la guerre à la lutte politique, surtout dans l'idée que les Tchèques et Slovaques, si eux ils forment une nation État, vont créer un grand État en Europe centrale, un État important. Donc un État où on pourra avoir des minorités nationales parce que les Tchécoslovaques seront majoritaires. Sans cette conception-là, les Tchèques, les Slovaques, les Allemands et les autres seraient tous, en fait, presque des minorités, pas majoritaires, dans le nouvel État.
À chaque nation, son territoire, selon la doxa des principes érigés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Alors que la nation tchécoslovaque apparaissait pour la première fois dans la bouche de ceux qui organiseront le règlement du conflit, la question du territoire de la future Tchécoslovaquie est encore en discussion. Les premières cartes du futur État dans la nouvelle Europe centrale sont d'abord produites par le service cartographique de l'armée tchécoslovaque. Nous sommes au début de l'année 1918 et le conflit fait encore rage.
Miláčku, učme se italsky a jeďme spolu do Říma. Tam lidí jezdí miliony a jedí tam makarony, nevědí, co je Říma. Miláčku, učme se italsky, tu řeč miluje celý svět. I mě, já, tobě po italsku, můžem si pak vyznat lásku a budem si rozumět.
Si la frontière occidentale de la Tchécoslovaquie s'appuie sur les contours stables de la Bohême, le reste du territoire tchécoslovaque a été inventé durant les derniers mois de la guerre. La fixation des frontières de la Tchécoslovaquie fut complexe. La frontière sud de la Slovaquie est une frontière neuve, obtenue au prix de complexes observations du peuplement slovaque et hongrois au sud de la Haute-Hongrie. La Ruthénie subcarpatique est incorporée au sein du nouvel État, un espace stratégique situé à l'est, important puisqu'il permet de contrôler l'arc montagneux des Carpates et l'accès à la plaine du Danube. À la suite d'âpres négociations, la frontière de la Silésie, qui fixe la limite entre la Tchécoslovaquie et la Nouvelle-Pologne, fut tranchée par plébiscite, tandis que le sort de la ville de Téchen a été réglé par la force. Les Tchèques et les Slovaques se sont unis au sein de l'idée nationale tchécoslovaque pour faire entendre leurs revendications territoriales. Comme le rappelle l'historien Antoine Marès, la Tchécoslovaquie, qui naît en 1918, ressemble à une Autriche au petit pied. Loin toutefois de l'autoritarisme de l'Empire des Habsbourg, dont elle est l'une des héritières, la Tchécoslovaquie est l'un des rares États européens qui a proposé, à l'heure des fascismes et des totalitarismes, dont elle sera par ailleurs l'une des premières victimes, un modèle de société multiculturelle et démocratique, une avant-garde politique au milieu d'une Europe réactionnaire.
Nejkrásnější jsou slova maďera. To jsou
najvernější chce pro ně žít.
Voilà, c'est sur cette charmante chanson des années 30 que s'achève cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, en podcast, en streaming également, sous forme d'articles. Vous le savez, c'est le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy !